Et si j'appuie pas sur le micro. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux, Enrique ? Je vais t'avouer un sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est la jalousie. Écoute, j'ai noté, ta grande fan, c'est Géraldine, qui n'arrête pas sur le compte Facebook d'Enrique. Si vous souhaitez suivre en direct, bien sûr, ce qui se passe dans les studios, vous avez la possibilité de vous connecter sur les Facebook des animateurs. Et Enrique est en direct Facebook Live, avec plein de commentaires élogieux de cette Géraldine qui est totalement in love. C'est pas possible. Enrique numéro 1, Enrique, il est génial. Et elle a tellement raison en plus. Mais on n'arrête pas de danser dans ce studio. Moi, j'arrive en voiture en plus pour rien vous cacher et j'écoute Enrique là depuis le début. Et c'est vrai que c'est pas facile de conduire en écoutant Enrique parce qu'on peut parfois, oui, c'est assez compliqué. On n'est pas totalement attentif à ce qui se passe sur la route. Bref, Enrique, merci pour cette encore émission, la 307e, si j'ai bien écouté tout à l'heure, pour VibraSOS qui nous, voilà, on nous écoute partout dans le monde. Et c'est tant mieux. Et puis, bah, du coup, on va changer d'ambiance, voyez. On va revenir à une certaine réalité, parce que moi, je suis là pour vous plomber l'ambiance. On va parler de la contamination des laits infantiles. C'est l'actualité de cette semaine au niveau scientifique. On va parler du Groenland, qui fait beaucoup, voilà, qui prend pas mal de place dans les médias. On va parler donc notamment du climat au Groenland. On va faire un petit tour à Las Vegas, hein, parce qu'il y a eu quand même le salon de l'électronique il y a quelques semaines. Et c'était il y a 2 semaines. Et donc, on va un petit peu faire le point de ce qui se passe là-bas. On va parler d'un prix Nobel, entre guillemets, parce que ce n'est pas nécessairement un vrai prix Nobel, mais il existe un prix qui correspond un petit peu au prix Nobel de l'environnement. Et puis, on va parler de la chose. Alors, la chose, c'est quoi ? Eh bien, si vous connaissez la famille Adams, la chose, c'est cette espèce de main qui se balade un peu partout. On connaît tous la chose. Eh bien, maintenant, il y a une chose robotique. On verra ça dans cette émission. Et puis, si on a le temps, on parlera aussi des vaches qui, maintenant, arrive à se brosser le dos toute seule avec un balai. Enfin, l'actualité scientifique cette semaine, est-ce que tu as vu cette vidéo, Enrique, de cette, voilà. Eh ben, ça fait parler parce que d'un point de vue éthologie, alors l'éthologie, c'est le comportement des animaux, donc c'est une vraie, comment dire, une vraie étude scientifique, on découvre de plus en plus de choses chez des animaux dont on ne soupçonnait pas au départ qu'ils avaient une certaine notion d'intelligence. Et donc cette vache qui se brosse le dos avec un balai fait beaucoup parler dans le milieu des éthologues du monde entier. On en parlera également dans cette émission. C'est Biotine et je suis très heureux d'être avec vous sur l'antenne de Graphite.
Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Et bien sûr, en direct sur Graphite aujourd'hui, 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, en direct donc aujourd'hui. En différé, si vous nous écoutez pour la rediffusion le mardi matin à 10h sur l'antenne de Graphite. Et puis bien sûr, le site Internet qui vous permet de pouvoir suivre toutes les actualités, toutes les émissions de Graphite quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. Alors, j'étais en train de regarder s'il y avait la possibilité d'envoyer des SMS, j'ai l'impression que non, mais c'est pas grave. On va parler donc de l'éphéméride d'aujourd'hui, de ce 24 janvier. 24 janvier, c'est la journée internationale de l'éducation au niveau des Nations Unies. Donc, ça tombe bien, ça tombe un samedi, mais voilà, il y a pas mal d'actions qui sont menées sur ce sujet-là pour cette journée internationale. Le 24 janvier, dans les années 80, il y a eu deux événements assez importants. Le 24 janvier 1984, donc il y a 42 ans, Steve Jobs présente le premier Macintosh 128K à plus de 3000 personnes. C'était en 1984 quand même, il y a 42 ans, le premier Macintosh. Et en 86, donc il y a 40 ans pile, c'est la sonde Voyager 2 qui passe au plus près d'Uranus et qui découvre 10 nouvelles lunes d'Uranus. On faisait une exploration spatiale. On allait beaucoup plus loin que la Lune à l'époque. La Lune, c'était les années 60-70. Et donc là, dans les années 80, on envoyait des sondes un petit peu plus loin et on découvrait un petit peu mieux ce système solaire. Naissance de Desmond Morris. Il est né donc un 24 janvier 1928. C'est un Anglais, c'est précisément un zoologiste qui est également un vulgarisateur, un écrivain. C'est ça qui est intéressant, notamment dans cette émission Biotine qui parle d'actualité scientifique. C'était également un peintre surréaliste anglais. En 1951, il entre au département de zoologie de l'université d'Oxford. En fait, il veut étudier le comportement animal dans le cadre de sa thèse et il poursuit ses travaux sur le comportement reproductif des animaux, cette fois-ci sur les oiseaux. Et il étudie ensuite l'habileté des grands singes à peindre et à dessiner. En 1957, l'Institut des arts contemporains à Londres invite justement Desmond Morris à exposer les peintures qui sont réalisées par son chimpanzé qui s'appelait Congo. Desmond Morris, il devient présentateur d'une émission qui s'appelle Zoo Time dans les années 60. Il est également producteur de shows télé et il est donc écrivain et l'auteur de livres de zoologie. Il reste l'un des précurseurs en matière d'éthologie humaine. Donc je vous parlais d'éthologie, donc le comportement des animaux. Là, éthologie humaine, on est plutôt sur une notion de sociobiologie humaine. Ce qui l'intéresse également, c'est un petit peu la relation qu'il peut y avoir entre ces grands chimpanzés et l'homme. Il a écrit un livre qui s'appelle Le singe nu, qui est un best-seller, qui a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Vous avez peut-être déjà lu Le singe nu de Desmond Morris. Eh bien, on fête son anniversaire aujourd'hui parce qu'il est encore vivant, il a 98 ans. Bon anniversaire Desmond Morris, qui est donc né le 24 janvier 1928. Décès le 24 janvier 1966, Domi Bhabha, qui est un physicien nucléaire indien. C'est assez intéressant parce qu'on parle pas beaucoup de l'Inde dans cette émission. Ça ne veut pas dire que l'Inde ne fait pas de recherche scientifique. C'est peut-être plutôt que l'Inde ne communique pas assez. Peut-être ceci. En tout cas, là, Homi Bhabha est un physicien de renom. Il est le père des sciences nucléaires en Inde. Il préside la conférence de l'ONU sur les usages pacifiques du nucléaire. Nous sommes en 1955. Et avec le premier ministre indien Lal Budhasur Shastri, en fait, il militait à l'époque pour la non-prolifération nucléaire à des fins militaires. Mais en fait, le Premier ministre avec lequel il était assez proche et que justement ils étaient ensemble dans cette idée de pouvoir convaincre sur la non-profilération nucléaire, il décède brutalement d'une attaque cardiaque en janvier 1966 et Bhabha, lui, il va disparaître moins de deux semaines plus tard, donc le 24 janvier 1966, dans le crash d'un Boeing 707 d'Air India sur les pentes du Mont Blanc, alors qu'il se rendait à deux conférences pacifistes, l'une à Vienne et puis quelques jours plus tard à Genève. Alors c'était un petit peu polémique hein, quand on regarde un petit peu sur Internet, il y a pas mal d'interrogations qui sont portées sur un petit peu la disparition de Homi Bhabha. Mais voilà, il est donc décédé le 24 janvier 1966, physicien nucléaire indien. C'est aussi important de pouvoir évoquer sa mémoire à l'occasion de cet éphéméride. Alors, nous sommes toujours le 24 janvier, il est 12h10. Il est 12h10 que j'ai personnellement faim, mais j'ai quand même pouvoir animer la mission avec vous pendant cette heure. Hein. Bon appétit si vous avez la chance d'être à table. Et on va un peu faire le point sur l'actualité scientifique. Il y a un site qui s'appelle Futura Science, qui est vraiment intéressant d'un point de vue vulgarisation scientifique, parce que ce site propose des articles scientifiques sur plein de sujets et d'une façon vraiment vulgarisée, adaptée au grand public. Donc je vous incite à consulter ces sites internet, notamment Futura Science, ou alors à feuilleter des revues de vulgarisation scientifique comme Science et Avenir, Science et Vie. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses qui sont vraiment intéressante parce qu'elle nous donne aussi un angle ou une interprétation de l'actualité qui permet un petit peu de ne pas s'emballer sur certaines choses et d'avoir un certain recul. Ce que je trouve intéressant dans cet article de Futura Science qui traite du lait infantile, c'est de comprendre un petit peu de ce dont on parle. Le lait infantile, hein, bien sûr, il y a des rappels un scandale alimentaire en ce moment parce qu'il y a la présence d'une toxine dans le lait maternisé pour bébés de plusieurs géants de l'industrie laitière, hein, Nestlé, Lactalis, Danone. Il y a des rappels qui sont encore en train d'être faits aujourd'hui même et l'idée c'est un petit peu de comprendre ce dont il s'agit, qu'est-ce qu'il se passe. Alors, On parle du lait et on sait très bien que le meilleur aliment pour le bébé, c'est le lait de sa propre mère. Parmi les mammifères, il n'y a que les humains en fait qui ont tenté une autre solution. Une solution qui est parfaitement respectable, hein, bien sûr, ce n'est pas le sujet, et au libre choix de la mère, mais qui n'est pas sans conséquences. Et ce site Futura donne un petit peu un historique de ce lait infantile, et notamment dans les années 1950. On a vu qu'en encourageant les mères des pays pauvres, et en particulier dans les pays africains, à quitter l'allaitement maternel pour adopter le biberon, on est parvenu à des véritables catastrophes compte tenu de leur mode de vie, parce que bien souvent, elles ne mettaient pas assez de poudre de lait, parce que c'était quand même un coût financier qui n'était pas négligeable, et elles le mélangeaient aussi avec de l'eau contaminée. Résultat, la mortalité infantile a augmenté, et il y a eu des campagnes internationales qui avaient alors accusé directement la grande multinationale Nestlé, à l'époque, on est dans les années 50. Le recours au biberon, aujourd'hui, c'est quand même massif dans les pays développés. En France, on considère à peu près que le trois quarts des mères allaitent en sortant de la maternité, mais ce taux, il décroît rapidement, en particulier à la fin du congé maternité, parce qu'au bout de 6 mois, elles ne sont plus que un quart, évidemment. Donc on passe de trois quarts à un quart. Et ce taux est légèrement supérieur dans les pays du nord de l'Europe ou en Allemagne, où il y a l'utilisation de ce lait infantile. Alors, il est assez naturel, nous dit-on dans cet article de Futura Science, d'imaginer que, puisqu'il est abondant et puisqu'il est bon marché, et que la plupart des enfants en boivent, on puisse donner du lait de vache à son bébé. Effectivement, il y a du lait qui est prêt, hop, et bien c'est une grave erreur, parce qu'il y a une différence entre les laits des différentes espèces, des différences qui sont absolument considérables. En fait, Futura explique que le lait de vache, il incite le veau à prendre 200 kilos dès les premiers 6 mois. Donc effectivement, c'est pas la même fonction entre un bébé et un veau, bien évidemment. D'autant plus que dans les premiers mois, le lait est le seul aliment du bébé qui doit lui fournir l'ensemble de ses besoins. Alors, on a donc mis en place ce lait maternisé en poudre et on se rend compte que c'est un aliment ultra transformé. C'est même l'un des éléments les plus ultra transformés qui existent parce qu'on doit y retirer énormément d'éléments qui ne sont pas bien digérables par le bébé ou alors qui seraient aussi nocifs pour sa santé. Donc on enlève des protéines, des minéraux, des graisses qui sont saturées et puis on doit lui ajouter énormément d'ingrédients qui vont lui permettre de bien grandir en bonne santé. Donc on va lui ajouter des protéines modifiées, des probiotiques, des éléments comme le fer, le zinc, l'iode, plein de vitamines qu'on va mettre dedans, du lactose, hein, parce que le lait de sa mère en contient beaucoup et que dans les premiers mois de sa vie, il produit une enzyme qui permet de casser cette molécule un peu compliquée, et on va rajouter des acides gras, oméga 3, oméga 6 et ainsi de suite. Et c'est là que le scandale est arrivé à la fin donc, de cette année dernière, 2025, parce que il y a eu de nombreux industriels qui ont utilisé un acide particulier qui est l'acide arachidonique, donc lié à l'arachide, qui est censé fournir de bons oméga. Alors, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs de cet acide arachidonique, qu'on va appeler le ARA, pour mieux comprendre ce dont on parle. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs dans le monde. Et la plupart, ils sont achetés à une entreprise chinoise qui semble s'être avérée pour le moins imprudente en livrant justement cet acide contaminé avec un bacille qui s'appelle le bacille Cereus qui va produire une toxine. Et le site de Futura fait un petit peu, comment dire, un historique de tout ça. En 2004, le groupe américain Cargill a créé une co-entreprise avec une entreprise chinoise qui est le principal producteur de cet acide arachidonique en Chine pour les laits infantiles. L'idée, c'était de servir des clients de lait infantile sur une base beaucoup plus large au niveau mondial. Et depuis lors, cet acide arachidonique produit en Chine est proposé comme source majeure pour les fabricants internationaux de lait infantile. Et c'est celui-là qui aujourd'hui a été livré contaminé pour des raisons qui restent encore indéterminées, bien sûr. Cette toxine, elle est malheureusement très présente dans la nature, à la fois dans la terre, dans les plantes, dans l'eau, et elle provoque en général des affections bénignes hein, chez l'adulte, hein, on va, des diarrhées, mais ça peut s'avérer beaucoup plus grave chez des personnes sensibles, les personnes âgées, les femmes enceintes et les bébés. Alors, la question qui est combien de temps il faut pour informer le consommateur, parce que c'est là où on se rend compte qu'il y a peut-être eu un délai un peu trop grand. Quand il s'agit d'un aliment particulièrement sensible, le lait maternisé est beaucoup plus contrôlé que la moyenne des autres aliments. On est donc en droit de s'étonner de l'arrivée de ce problème. Alors, pourquoi n'a pas pas-t-il, pourquoi on ne l'a pas détecté plus tôt ? Déjà, le système de détection, il est assez complexe. Et quelque part, il faut qu'on ait une espèce de comme un recul pour se dire, oui, il y a bien un problème. Et ce recul, ça veut dire du temps. Et du temps, c'est là qu'on en perd. Et c'est un petit peu compliqué. En fait, il faut dire que ce bacille qui est présent donc, dans cette livraison d'acide arachidonique, on n'a pas de chance parce que ce bacille, on ne peut pas le détecter comme ça, parce qu'il est un peu encapsulé, il est totalement indétectable. C'est qu'une fois qu'on va le mélanger à de l'eau tiède dans le biberon, que ce bacille va pouvoir se libérer. Donc c'est un petit peu trop tard pour pouvoir le détecter à temps. Et puis en France, il n'y a qu'un seul laboratoire qui est capable de faire correctement une détection de ce bacille. Alors, si le laboratoire, on ne lui a pas donné les éléments en bonne et due forme et dans les temps, effectivement, il y a encore un délai qui se met en place. Alors, Nestlé a rappelé des centaines de milliers de boîtes dans 60 pays différents. Lactalis est dans 18 pays. Danone commence à le faire. Et donc, j'ai lu ce matin apparemment que même en France, Danone est également concerné. Alors, on peut bien sûr comprendre l'inquiétude légitime des jeunes parents. Le seul conseil, en fait, qu'il est possible de donner, c'est de regarder la liste des ingrédients et d'éviter, justement, l'acide arachidonique s'il est présent donc sur les boîtes de ces laits infantiles. Et en fait, le site, cet article de Futura, il est assez intéressant parce que bien sûr, on va se focaliser sur cette problématique, mais il donne un petit peu, il relativise un petit peu le sujet en disant que la sécurité alimentaire en France, elle est quand même sûre, elle est même très sûre. Même s'il y a une multiplication des scandales alimentaires qui peut faire croire un petit peu aux consommateurs qu'on vit dans un monde de plus en plus dangereux. En fait, c'est exactement l'inverse qui explique ces scandales. La nourriture en France est l'une des plus sûres au monde. Futura indique que seuls quelques autres rares pays comme la Suisse font autant de contrôles. En 1950, il y avait encore 15 000 morts par an par intoxication alimentaire. Aujourd'hui, c'est à peine un peu plus de 200. Et une bonne part de ces intoxications alimentaires, c'est à cause du consommateur lui-même. Soit il a mangé des champignons qu'il ne fallait pas, soit parce qu'il y a une rupture de la chaîne du froid et que, par exemple, une charcuterie qui a été conservée en dehors de la chaîne du froid pendant un certain temps et qu'ensuite il se met à manger, effectivement, ce n'est pas vraiment la meilleure chose qu'il fallait faire. En tout cas, en matière de mortalité infantile, les chiffres sont encore beaucoup plus spectaculaires. Au début du XXe siècle, 14% des bébés français mouraient au cours de leur première année. 14%, c'est quand même énorme. Ce chiffre, au milieu du siècle, 1950, il tombe à 5%. Aujourd'hui, il est à 0,3%. Donc en termes de mortalité infantile, bien évidemment, c'est des chiffres spectaculaires et c'est rassurant, bien évidemment. Et voilà, donc il faut un petit peu relativiser ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on colporte. Bien sûr, il faut se protéger, il faut faire attention, on peut avoir quelques doutes, bien sûr, sur ce qui existe, mais en termes de sécurité alimentaire, la France est quand même bien dotée, excusez-moi, je vais y arriver, et donc du coup voilà, on est quand même sur un dispositif sécuritaire très renforcé en France. Donc voilà, c'était, je trouvais assez intéressant cet article de Futura parce que on arrivait un petit peu à, je dirais pas relativiser, parce qu'effectivement du lait infantile avec une toxine à l'intérieur, c'est pas quelque chose de comment dire, de plaisant, c'est quelque chose de sérieux bien sûr, mais relativisons toujours, et c'est aussi un petit peu le but de cette émission, c'est d'avoir un petit peu un recul sur l'actualité. On va parler de ce qui a été présenté à l'occasion du salon de l'électronique à Las Vegas, et puis on va parler du Groenland juste après un petit titre, parce que Biotine, c'est de la science et c'est de la musique. Vous êtes bien sûr Graphite.
Sorted. What's going on? Next year's coming in.
Safety Pills, c'était On a Glass sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et on va partir à Las Vegas. Alors, dans l'émission, il y a 15 jours, je vous parlais de Las Vegas avec ce salon de l'électronique, mais on était en plein dedans, donc on n'avait pas encore nécessairement eu un petit peu, là encore, le recul. En fait, Biotine, c'est l'émission où on va toujours reculer sur l'actualité, mais de voir un petit peu ce qui a été présenté dans ce salon de l'électronique, parce que ce qui est présenté à Las Vegas, c'est chez nous peu de temps après. Il faut toujours avoir cette notion. C'est pour ça qu'en général, dans les émissions de Biotine du mois de janvier, on parle toujours de ce qui a été présenté à Las Vegas. Et tout le monde regarde ce qui se passe à Las Vegas pendant ce salon pour voir un petit peu quelles vont être les technologies qui vont ensuite nous concerner dans notre quotidien. Et ce que l'on constate de plus en plus, et ce n'est pas nécessairement une surprise, c'est l'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans nos foyers. En tout cas, c'est ce que révèle notamment ce fameux salon international. L'intelligence artificielle, ce n'est plus un gadget. Cette intelligence, elle s'intègre progressivement dans nos habitudes de vie. C'est un petit peu, on fait une comparaison avec Internet à la fin des années 90. C'est devenu en quelques années indispensable. On se rend compte que l'intelligence artificielle, ça va être de plus en plus la même chose. Parce que ce n'est pas seulement un outil. L'intelligence, elle va muer un petit peu de façon progressive, une mutation progressive qui va devenir de plus en plus un compagnon du quotidien, en tout cas de notre quotidien. Donc il y a plusieurs entreprises, plusieurs sociétés qui ont présenté pas mal de choses à l'occasion de ce salon. Alors par exemple Samsung qui a dévoilé sa vision baptisée Your Companion to Her Living. C'est votre compagnon peut vivre avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle ne doit plus fonctionner de façon individuelle dans des appareils qui sont totalement déconnectés les uns des autres. Non, maintenant, il faut avoir une espèce d'unité un peu cohérente dans nos maisons, capable d'améliorer la sécurité, le confort de vie et les économies d'énergie, parce que la maison, elle devient ainsi une espèce d'écosystème un petit peu intelligent, où les appareils électroniques vont se connecter entre eux, ils vont partager entre eux les données, les informations, les analyses et les services numérique. Et cette possibilité, elle repose sur ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les marques. L'idée, en fait, c'est que faut faire en sorte, même si les marques sont différentes, que les objets puissent communiquer les uns aux autres. Mais l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos maisons doit s'opérer dans une espèce de climat de confiance entre les habitants et les nouveaux équipements qui sont bien sûr capables d'observer, d'apprendre, d'anticiper les besoins. Ça peut être parfois assez troublant. Il y a la marque LG qui a dévoilé son nouveau robot domestique. C'est un véritable homme à tout faire de la maison. Il est capable de plier le linge, de vider le lave-vaisselle, de sortir les plats du four. C'est quand même assez génial. Il y a une marque Switchbot qui a, quant à elle, présenté un robot Onero conçu pour analyser les habitudes de ses hôtes et de s'adapter à leur quotidien sans manquer d'interagir avec eux. Oui, parce qu'on veut un compagnon, on ne veut pas uniquement un esclave. En tout cas, ces robots humanoïdes sont une petite révolution parce qu'ils ne vont pas se contenter d'exécuter des fonctionnalités qui seront programmées au départ, mais ils vont s'adapter à leur environnement grâce à des caméras, des capteurs et une technologie qui est toujours plus avancée. Il y a Samsung encore qui propose une gamme d'appareils électroménagers, c'est-à-dire des fours, des frigos, des caves à vin également, qui vont intégrer Google Gemini, donc l'intelligence artificielle de Google, et ça sera un petit peu un chef d'orchestre de l'ensemble de l'équipement de la maison. Par exemple, le frigo, il va identifier les aliments qui vont entrer et qui vont sortir, donc il va pouvoir suggérer des recettes, il va pouvoir planifier les repas, il va même pouvoir transmettre des instructions aux appareils de cuisson qui seront connectés à lui. Il n'y aura presque plus rien à faire. Finalement, les téléviseurs, eux également, ils sont de plus en plus en pleine mutation. Des modèles qui sont toujours plus grands, toujours plus fins, qui proposent une qualité d'image et de couleur jamais vue. Et tout ça va être piloté également par l'intelligence artificielle. Il y a plein de fabricants de téléviseurs, hein, Samsung, Philips, LG, Hisense, qui montrent que la télévision, elle devient un petit peu un hub central de la maison connectée, c'est-à-dire le point central de cette intelligence artificielle qui s'installe dans notre maison. La sécurité domestique aussi, elle est également concernée par l'intelligence artificielle. Switchbot surfe depuis quelques années sur la vague de l'intelligence artificielle et la marque a notamment présenté une espèce de nouvelle serrure connectée qui va intégrer une reconnaissance faciale en trois dimensions pour pouvoir déjouer un petit peu les tentatives d'intrusion et de cambriolage. Et voilà, ça va reconnaître automatiquement votre visage et en une fraction de seconde, la porte va pouvoir s'ouvrir. La surveillance de la maison assistée par intelligence artificielle, c'est également un point important avec des caméras qui vont pouvoir alerter l'utilisateur directement sur son smartphone en cas de situation de risque. Mais des caméras, mais aussi tous ces appareils connectés vont pouvoir également être des éléments qui vont s'intégrer dans cette surveillance générale. C'est-à-dire que le frigo va aussi pouvoir vérifier si tout se passe bien dans la maison. Ce n'est pas juste une caméra qu'on aura mis, par exemple, en face de la porte d'entrée. Bref, on voit très bien, et c'est ce qui a été présenté à Las Vegas, c'est que cette intelligence artificielle s'impose de plus en plus dans nos maisons. Et que les entreprises de l'électronique sont justement après cette course pour essayer de développer les meilleurs dispositifs et les meilleures machines qui seront chez nous, dans notre maison, très rapidement. Alors, on n'a pas nécessairement une notion des prix, on n'a pas nécessairement une notion de délai de livraison, entre guillemets, mais on sait très bien que ça va être pas nécessairement en cours de l'année, mais en tout cas, à la fin de l'année et début de l'année prochaine, on aura des choses concrètes qui vont pouvoir être achetés, parce que là, on est encore en phase de prototypes ou alors de premiers démonstrateurs qui sont présentés à l'occasion de ce salon de l'électronique à Las Vegas. Mais on voit très bien que cette technologie se généralise, qu'elle s'invite dans nos maisons à grands pas à travers des écosystèmes ouverts et donc ces solutions un peu interopérables, c'est-à-dire avoir des systèmes qui vont pouvoir communiquer entre eux sans avoir nécessairement l'obligation d'avoir un monopole d'une société sur une autre. Et donc, si on a plusieurs éléments de différents fournisseurs, entre guillemets, l'idée, c'est que tous puissent s'imbriquer ensemble. Et c'est un véritable défi pour toutes ces entreprises. Et voilà. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, vous trouvez un petit peu tous ces éléments qui sont présentés au niveau donc du CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, le salon de l'électronique. Vous verrez un petit peu ce qui a été présenté. Il y a aussi également une présentation du premier ordinateur intelligence artificielle, le plus petit en fait qui existe. Il est un petit peu aussi grand qu'un smartphone normal, entre guillemets. Il est capable maintenant d'avoir l'intelligence artificielle intégrée. Ça s'appelle le Tiny Hey Pocket, je vais y arriver, donc Pocket Poche, intelligence artificielle, il coûte $1,400, ce qui n'est pas vraiment un chiffre important, c'est pas si cher que ça, et c'est quelque chose qui a été volontaire, c'est-à-dire d'avoir un prix abordable pour encourager l'adoption de l'intelligence artificielle locale par le grand public, loin des services coûteux bien sûr, alors que les questions de sécurisation des données privées et de rentabilité des services cloud sont devenues maintenant vraiment des questions saillantes. Donc là, on a aussi une présentation à Las Vegas de ce petit ordinateur de poche avec intelligence artificielle intégrée. Donc vous pouvez vous regarder sur les différents sites internet et vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, là, ça ressemble en clair à un smartphone, mais qui a quand même des capacités totalement intéressantes. Donc voilà, ce qui a été présenté au niveau de Las Vegas. Quelle heure est-il ? 12h32. Est-ce que j'ai le temps de... Allez, tiens, je vous avais promis de parler de la chose tout à l'heure. La chose, c'est bien sûr cette main de la famille Adams, qui se balade comme ça toute seule et qui est indépendante. Eh bien, la chose, elle est robotique. C'est ce que vous pouvez voir quand vous regardez des vidéos de l'EPFL. L'EPFL de Lausanne, c'est un grand institut de recherche, c'est également une école d'ingénieurs. Et les chercheurs ont donc essayé de travailler sur un bras robotique Un bras robotique, bon, ça on sait ce que c'est, on en connaît plein, mais équipé d'une main à sac doigts. Il y a une vidéo qui est totalement bluffante. On voit ce bras robotique avec une main au bout, et ils ont mis sur une table des objets un petit peu disséminés. Et ces objets sont hors de portée du bras robotique qui lui est fixe, hein, qui est accroché, et donc il ne peut pas aller récupérer les objets qui sont sur la table. Eh bien, c'est pas grave. On se rend compte que le robot va déposer sa main sur la table, et la main va donc se détacher et elle va se mettre à avancer toute seule, alors avec les doigts, bah comme la chose de la famille Adam, ça va se déplacer un peu comme une araignée, pour ensuite essayer d'aller récupérer les objets. C'est une démonstration qui est totalement étonnante et qui fait beaucoup parler, parce que il y a à la fois donc de la manipulation d'objets, il y a aussi une notion de locomotion autonome, et ça marque bien sûr une innovation importante dans la robotique mobile. Grâce à cette main entre guillemets autonome, et bien les chercheurs tente de surmonter l'une des limitations des bras robotiques, qui sont généralement fixes, bien sûr, et qui ne sont pas trop polyvalents. Et les innovations reposent ainsi sur un mécanisme qui va pouvoir se détacher et sur le fait que cette main robotisée est autonome, et aussi sur un petit peu la structure, l'architecture de cette main, parce qu'elle n'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement comme une main humaine, parce que là, elle est symétrique avec des doigts de longueur identique et des fonctions réversibles. C'est-à-dire que chaque doigt peut passer de rôle d'appui pour pouvoir marcher, pour le déplacement, et puis un rôle de préhension, c'est-à-dire que le doigt va pouvoir marcher, mais va aussi pouvoir prendre un objet. Donc ils ont vraiment travaillé pour avoir ce robot qui est capable d'aller récupérer plusieurs objets en même temps, alors qu'ils sont hors de portée du bras robotique au départ, et essayer d'effectuer des manipulations vraiment complexes. Alors cette conception donc de ces chercheurs de l'EPFL de Lausanne a été dévoilée dans la revue Nature Communications, et ça peut ouvrir bien sûr de nombreuses perspectives pour la robotique industrielle. C'est vrai qu'on se dit qu'il peut y avoir des applications vraiment intéressantes. La robotique de service également, parce que ça va permettre des interactions élargies dans des environnements qui sont parfois restreints. L'idée, par exemple, ça serait de pouvoir explorer des environnements complexes, des zones sinistrées, des structures étroites. Si vous avez un robot qui ne peut pas nécessairement aller dans des endroits compliqués, eh bien, par contre, là, il détache une partie de lui-même, et cette petite partie, elle, peut mieux se faufiler, entre guillemets, ou aller dans des endroits complexes ou dangereux. Donc il y a des applications qui sont vraiment très utiles, bien sûr, de cette main robotique qui se détache toute seule et qui se met à marcher. C'est fascinant. C'est la science. Qu'est-ce que vous voulez ? 12h36 sur Graphite. Allez, un peu de musique.
Yeah.
mangent tous. C'était Wet Leg sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
J'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé du Groenland que depuis ces 15 derniers jours. J'ai un peu l'impression, parce que le Groenland, ok, on savait un petit peu ce que c'était, mais sans plus. Et depuis 15 jours, avec l'actualité géopolitique, bien sûr, on ne parle que du Groenland. Donc, on avait parlé il y a 15 jours dans cette émission des ressources, notamment en terres rares, qui sont présentes sur le territoire du Groenland, où on avait cet article qui nous expliquait qu'effectivement, il y a des ressources, mais elles ne sont pas facilement exploitables et qu'on est cette fois dans une perspective à moyen terme, sur 10, 15, 20 ans, pour pouvoir être en mesure d'exploiter ces terres rares. Mais en tout cas, ces ressources, elles existent et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle certains s'intéressent autant au Groenland. Et bien, cette semaine, on va encore reparler du Groenland avec cet article de Futura qui nous explique cette fois qu'on a peut-être des idées un peu préconçues sur le climat du Groenland. Et il y a plusieurs idées reçues qui sont un petit peu contredites par cet article de Futura Science, parce que le climat du Groenland réserve bien des surprises et est victime quand même de beaucoup d'idées reçues. C'est une île qu'on ne connaît pas trop, en fait. Alors, elle peut être très hostile au niveau climatique, mais elle peut être aussi très accueillante. Et donc, dans cet article, il y a plusieurs idées préconçues qui sont nommées. Et donc, on va voir un petit peu si c'est vrai. Par exemple, l'idée reçue numéro 1, c'est que le Groenland est une île entièrement glacée. Alors, ce n'est pas vraiment la réalité. Alors, il y a une superficie qui est quand même immense. Le territoire, comme il est quand même très grand, il est forcément sujet à de grandes variations climatiques. Eh bien, contrairement à ce que l'on imagine, il ne s'agit pas d'une île entièrement glacée. La glace recouvre bien 81% du Groenland, mais ça veut dire que la superficie de l'île, elle est tellement importante que les 19% où il n'y a pas de glace, ça représente un territoire qui est aussi grand que les trois quarts de la France. Donc ça, c'est quand même ce qui est en dehors de la glace, un territoire assez important. Au sud de l'île, par exemple, sur les côtes de l'ouest et de l'est, la végétation est composée d'herbes et de mousse. C'est une espèce de toundra où il y a des élevages de moutons, il y a quelques chevaux également l'été. C'est aussi une zone remplie de moustiques et de mouches durant la saison chaude. Alors, on n'a pas nécessairement associé les moustiques et le Groenland. Eh bien si, dans certaines parties du Groenland. L'idée reçue numéro 2, c'est qu'il fait toujours très froid au Groenland. Alors, là aussi, il faut un petit peu modérer. La majeure partie du Groenland est glaciale avec des températures qui descendent parfois sous les moins 50 degrés l'hiver. Moins 50 degrés, on n'arrive même pas à bien percevoir ce que ça représente, moins 50 degrés. Et ça reste aussi, dans la majeure partie du Groenland, en dessous de 0 degré l'été. Mais il y a quand même parfois des choses qui sont assez fascinantes. En 2020, l'Organisation météorologique mondiale a reconnu que la température de moins 69 degrés Celsius enregistrée par une station météorologique du Groenland, c'était en 1991, eh bien c'était la température la plus basse jamais observée dans l'hémisphère nord. Et pourtant, le sud de l'île a un climat complètement différent. La pointe sud du Groenland, elle est plus basse en latitude que l'Islande. Et son climat est plus agréable que celui d'une grande partie de l'Islande. Il y a une température de 15 à 20 degrés l'été, qui est tout à fait classique entre fin juin et fin juillet au sud de Groenland, même si ces valeurs se situent tout de même au-dessus des moyennes de saison. La capitale, qui s'appelle Nuuk, elle a enregistré 24 degrés en juin 2016. C'est un record absolu pour cette ville, 24 degrés au Groenland quand même. La température moyenne en juin l'après-midi, c'est plutôt de 8 degrés, mais enfin, ça reste quand même au-dessus de 0, 8 degrés. Et dans une autre ville qui s'appelle Evitut, c'est toujours dans le sud-ouest de l'île, la moyenne elle est de 12 degrés l'été l'après-midi, mais cette ville elle a déjà largement pulvérisé cette température dans le passé, c'est-à-dire qu'on est arrivé jusqu'à 30 degrés qui a été enregistré dans cette ville du Groenland. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, il y a un flux de sud qui fait remonter de l'air chaud jusqu'au sud du Groenland. Et si le ciel est dégagé, il y a les rayons solaires qui frappent très fort et la Terre peut très vite se réchauffer. Donc non, il ne fait pas toujours très froid au Groenland. Idée reçue numéro 3, il n'y a aucun arbre qui peut pousser au Groenland. Eh bien si, il y a des petites forêts qui existent, qui sont présentes le long des côtes avec des arbres endémiques, hein, des genévriers, des aulnes, des saules, des bouleaux. Il y a aussi des arbres qui ont été importés, hein, des conifères, hein, des pins, des sapins et aussi des peupliers, des épicéas également qui ont été importés. Et avec le réchauffement climatique, la végétation explose au Groenland. En 30 ans, la surface recouverte de végétation a plus que doublé. Selon les chercheurs de l'université de Leeds en Angleterre, le Groenland devient une terre verte avec de plus en plus d'arbustes, comme c'était le cas il y a plusieurs millions d'années. Enfin, idée reçue numéro 4, la glace rend toute occupation humaine impossible sur la majeure partie du Groenland. Alors oui et non, c'est un peu plus complexe que cela. La grande majorité de la population du Groenland vit au sud, et notamment un tiers dans la capitale donc, qui s'appelle Nuuk. Et la grande majorité de la population vit aussi le long des côtes. Mais il existe quand même des villages de quelques centaines d'habitants jusqu'au nord de l'île, où il fait moins 25 à moins 40 degrés tous les matins du mois d'octobre au mois de mai. Alors nous, on n'est pas du tout habitués entre octobre et mai à avoir moins 40 degrés le matin. Eh bien, eux, oui, ils restent sur place. Il y a d'anciennes bases militaires qui sont aussi présentes du nord jusqu'au sud du Groenland. Et les choses sont en train de changer parce que le Groenland, ils font à grande vitesse et il va libérer progressivement davantage de territoire. Le Groenland, il a perdu 5000 km² de glace depuis une quarantaine d'années. Ça fait à peu près 1 milliard de tonnes de glace. C'est une des raisons pour lesquelles les puissances américaines, les puissances russes et les Chinois également s'intéressent à l'île, parce que la navigation, l'exploration, l'exploitation des ressources, ça va être de plus en plus facile au cours des prochaines décennies, bien évidemment. Il y a un autre danger qui guette cependant ceux qui veulent s'installer et exploiter les terres du Groenland. Et ça, on n'en entend pas parler. Ce sont les vents qui sont terriblement forts. Et en plus, l'île, elle est de plus en plus touchée par des tremblements de terre glaciaire. Alors ça, j'ai jamais entendu parler des tremblements de terre glaciaire. C'est un phénomène naturel qui est lié au mouvement des glaces. Et ça s'amplifie et c'est capable d'anéantir de nombreuses infrastructures liées aux activités humaines. Les tremblements de terre glaciaire, on n'a jamais entendu parler de ça, et bien c'est en Groenland que ça se passe. Et donc ce changement de climat général, global sur la planète, affecte bien évidemment le Groenland. Donc il y a un intérêt, c'est que ça va devenir de plus en plus exploitable. Je crois que c'est le mot approprié par certaines grandes puissances. Mais voilà, il y a aussi des répercussions assez inquiétantes, bien évidemment. Mais voilà, je trouvais intéressant de connaître un petit peu mieux le Groenland, parce qu'on a des images un peu préconçues, mais c'est un petit peu plus complexe que cela, bien évidemment. Je vous parlais tout à l'heure dans le sommaire, alors il y a pas mal d'articles et je vois que l'heure tourne parce qu'il est déjà 12h47 sur l'antenne de Graphite. Je vous parle de cette vache parce que ça fait beaucoup parler, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo. On a pendant longtemps pensé que l'intelligence animale, qui a été étudiée presque exclusivement chez les grands singes, on était uniquement sur une intelligence animale qui ne concernait qu'une partie de l'espèce animale. Il y a eu quelques espèces qui sont réputées brillantes, les corbeaux, les perroquets, mais il y a une nouvelle étude qui a été menée à l'université de médecine vétérinaire de Vienne et qui a été publiée récemment dans la revue Current Biology, qui va pouvoir un peu élargir notre regard sur ce domaine-là. Et l'héroïne de cette étude, elle s'appelle Véronica, c'est une vache domestique. Et ce qui va faire beaucoup parler, c'est son outil de prédilection qui est un balai. Les chercheurs ont observé Véronica, donc cette vache, utiliser cet objet, le balai, de manière étonnamment flexible. Elle se gratte le dos avec l'extrémité à poil et puis elle retourne le balai pour employer le manche qui est plus lisse et pour l'employer sur son ventre qui est un petit peu plus sensible. C'est un geste simple, bien sûr, en apparence, mais qui constitue le premier cas documenté d'utilisation d'un outil flexible et polyvalent chez un mammifère qui n'est pas un primate. C'est la première fois que ça a été documenté. L'observation est d'autant plus marquante que, malgré une domestication vieille de plus de 10 000 ans, eh bien, les capacités cognitives des vaches, des bovins au sens large, restent très peu explorées. Et donc, en éthologie, donc l'éthologie, comme je vous le disais en début de cette émission, c'est l'étude du comportement des animaux. Et bien, dans cette thématique de recherche scientifique, utiliser un outil ne se résume pas à déplacer un objet. Il s'agit de pouvoir le manipuler de façon à ce que son mouvement permette d'atteindre un objectif précis. Et cette définition, elle exclut par exemple la construction des nids où les matériaux deviennent statiques une fois sur place. Là, c'est le geste lui-même qui fait toute la différence. L'histoire de l'utilisation d'outils chez les animaux, ça a longtemps été associé à l'humain. Jusqu'à ce que Jeanne Goodall observe dans les années 60 un chimpanzé fabriquer une brindille pour pêcher des termites. Depuis, il y a des exemples qui ont été découverts chez des espèces très diverses, mais beaucoup relèvent de comportements un petit peu stéréotypés, façonnés par l'évolution. Et le cas de cette vache, donc le cas de Véronica, est vraiment différent parce que personne ne lui a appris à utiliser des objets. Son comportement est apparu spontanément, d'abord avec des petites brindilles, puis avec un outil bien plus complexe. Et les chercheurs ont mis en place un protocole expérimental, donc il y a vraiment une recherche très sérieuse derrière, et ils ont modifié l'orientation du balai posé au sol, et ils ont observé quelle extrémité elle choisissait pour quelle partie de son corps. Et donc, on constate que Véronica, elle adapte non seulement l'outil, mais aussi la précision et l'amplitude de ses mouvements selon la zone à atteindre. Et donc, selon les chercheurs, elle réunit ainsi les trois ingrédients d'un utilisateur créatif d'outils, c'est-à-dire l'apprentissage des propriétés physiques des objets, la capacité à combiner ces informations pour résoudre un problème et surtout une espèce de propension spontanée à manipuler son environnement. Et ça, c'était la première fois que l'on constate ça. Et ces découvertes, elles ne sont pas sans conséquences parce qu'il y a des travaux en psychologie qui montrent que plus un animal est perçu comme intelligent, plus il est jugé digne de considération morale et donc moins il est considéré comme comestible. Et donc, ça peut avoir un impact. Alors, il faut avoir du temps, il faut avoir évidemment, comment dire, là on est sur un cas précis, un cas particulier de Véronica, mais dans l'évolution du temps, peut-être qu'il y aura une considération différente par rapport à ces bovins. Et donc, qualifier un animal de simple d'esprit facilite l'acceptation de la façon dont il est traité à l'inverse, mais là, on se dit que c'est peut-être pas si simple d'esprit que ça. Et donc, il y a des vidéos que vous pouvez regarder hein, sur le web où on voit donc cette Véronica attraper le balai et frotter les parties de son corps en adaptant le geste et en adaptant l'outil. C'est totalement fascinant. On écoute un dernier titre dans cette émission et on se dira au revoir avec le prix Nobel de l'environnement, entre guillemets. C'est pas un vrai prix Nobel, mais en tout cas, on peut essayer de féliciter celle qui a reçu cela juste après le titre. Sur l'antenne de Graphite, à tout de suite.
Nous, on rêve de...
Acid Niger, c'était Léonie Pernet sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet avec la rediffusion le mardi matin à 10h. On va finir cette émission avec le prix Nobel de l'environnement. Alors c'est précisément le Tyler Prize for Environmental Achievement, parce que le prix Nobel en tant que tel n'existe pas pour la catégorie environnement. Il a été attribué à la biologiste américaine Toby Keres. Elle est mycologue et elle est biologiste de l'évolution et elle consacre depuis près de 30 ans ses recherches à un domaine longtemps relégué au second plan, c'est les interactions entre les plantes et les champignons. La mycologie, c'est la science des champignons. Donc elle est mycologue, donc elle travaille sur les champignons. Et son travail combine recherche académique, des expéditions de terrain à travers le monde, des innovations technologiques et des actions un petit peu pour essayer de mieux faire reconnaître l'importance de cette biodiversité invisible. Ce qui est intéressant, c'est que sous la surface des forêts et des prairies, sous la surface des terres agricoles également, il y a d'immenses réseaux de champignons qui vont relier les racines des plantes entre elles. Et ces infrastructures, elles servent de véritables systèmes d'échanges souterrains qui vont permettre le transfert de nutriments essentiels aux végétaux. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Et ce qui est intéressant dans cette étude de Toby Keres, c'est que en recevant l'excès de carbone produit par les plantes, eh bien ces réseaux absorbent chaque année environ 13 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, soit près d'un tiers des émissions mondiales issues des combustibles fossiles. En fait, ils étaient souvent considérés comme de simples alliés des plantes, et bien ces champignons apparaissent désormais comme l'un des grands régulateurs climatiques de la planète. Et donc Toby Keres, elle a cartographié un petit peu la répartition mondiale des champignons dans un atlas qui a été publié récemment, et elle a donc révélé l'ampleur de cette biodiversité souterraine, mais aussi sa vulnérabilité, parce que les analyses montrent que la majorité des points chauds de diversité au niveau de ces champignons se trouvent en dehors des zones qui sont protégées d'un point de vue écologique. Et donc c'est une situation préoccupante, et donc Toby Keres rappelle que la vie telle que nous la connaissons existe grâce aux champignons, parce que privées de ces racines complexes, eh bien les premières plantes terrestres n'auraient jamais pu coloniser les continents sans ce partenariat avec les champignons, un partenariat très 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 ancien. Donc aujourd'hui encore, protéger ces réseaux invisibles de champignons pourrait s'avérer essentiel pour préserver les écosystèmes et stabiliser le climat. Et donc, c'est ce travail de Toby Keres qui a été récompensé par ce approximatif prix Nobel de l'environnement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'est la fin de cette émission, 12h51 sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain et on va continuer, bien sûr, ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique, parce que je n'ai pas encore eu le temps de tout évoquer dans cette émission aujourd'hui. Je n'ai pas d'article pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous restez fidèles, bien sûr, à l'ensemble des émissions de Graphite. À bientôt, au revoir.